Mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui es venu ce matin prendre le temps d'écouter la parole de Dieu, renouveler tes forces physiques et spirituelles par le chant, la prière, rencontrer ton prochain au milieu de ton activité familiale ou de ton travail, eh bien sois sans crainte. Le Seigneur est là, il t'appelle. Il t'invite à l'écouter, à le recevoir ici et maintenant. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en son Fils Jésus le Christ, notre frère. Alors en ce premier jour de la semaine, soyez tous et toutes les bienvenus pour ce temps de culte. Nous sommes en communion les uns avec les autres, grâce à la musique, le partage de la Bible, la prière, relayée par le lien Internet ou les réseaux sociaux. Nous accueillons avec joie Sarah Kim, organiste co-titulaire de l'Oratoire du Louvre et qui accompagne ce culte aujourd'hui. Nous saluons particulièrement les amis qui nous rejoignent de divers pays. Merci de votre présence fidèle et de votre soutien. Nous associons à ce temps de culte les familles éprouvées actuellement par le deuil de leurs proches, celles qui traversent une période de remise en question ou une période difficile sur le plan de la santé. Nous nous réjouissons avec celles et ceux qui ont placé leur union sous le regard de Dieu et avec celles et ceux qui sont devenus parents il y a quelques jours. À ce propos, nous aurons une pensée pour toutes les mamans aujourd'hui puisque le calendrier nous y invite. Et puis, plus ecclésialement, nous aurons une pensée pour tous les délégués de notre Église protestante unie réunis à Mazamet depuis le jeudi de l'Ascension à l'occasion du synode national sur le thème des ministères dans l'Église. Prions ensemble. Éternel Dieu et Père, nous voici rassemblés à ton invitation. Il y a parmi nous des autochtones et des étrangers, des croyants et des peu croyants, des fidèles, des occasionnels, des habitués et des invités. Mais tous, nous sommes des mendiants qui cherchons le pain. Nous sommes tous des enfants qui tendons les mains. Nous sommes tous des guetteurs d'amour en quête de chemin. Grâce te soit rendue de nous accueillir, de nous accepter tels que nous sommes et de nous accompagner tous les jours. Amen. Et nous nous réunissons dans la communion fraternelle avec le premier chant du livret liturgique inséré au début du psautier français et qui s'intitule « Ô Seigneur, ta fidélité ». Je vous invite à vous lever. Dieu. Nous te louons, Dieu Tout-Puissant, car tu n'as pas dédaigné d'être appelé notre Père. Tu tiens le monde dans tes mains, mais tu nous connais par notre nom. Tu es béni, créateur de tout ce qui existe. Tu es béni, toi qui nous mets au large et nous donne à vivre dans ce temps. Nous te rendons grâce pour les œuvres de tes mains, pour tout ce que tu fais parmi nous, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et sans cesse, nous chanterons ta fidélité. C'est ce que je vous invite à faire maintenant en prenant le chant du psaume 33 que vous trouverez dans le psautier français. Psaume 33, nous chanterons les strophes 1, 3 et 5. Prenez place. Écoutons comment Dieu nous révèle son amour avec ces paroles que nous trouvons dans le livre d'Ésaïe. En effet, dit l'Éternel, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre mes méthodes et les vôtres, entre mes pensées et les vôtres, qu'entre le ciel et la terre. De même que la pluie et la neige tombent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre et sans l'avoir rendue fertile, il en est de même pour ma parole, ma promesse. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit de l'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé.
Thank you.
prions ensemble. Mon Dieu, apprends-moi à bien user du temps que tu me donnes et à le bien employer sans en rien perdre. Apprends-moi à prévoir sans me tourmenter. Apprends-moi à tirer profit des erreurs passées sans me laisser aller aux scrupules. Apprends-moi à imaginer l'avenir en sachant qu'il ne sera pas comme je l'imagine. Apprends-moi à pleurer mes fautes sans tomber dans l'inquiétude. Apprends-moi à agir sans me presser et à me hâter sans précipitation. Apprends-moi à unir la sérénité à la ferveur, le zèle à la paix. Aide-moi quand je commence, parce que c'est alors que je suis faible. Veille sur mon attention quand je travaille, et surtout, comble toi-même les vides de mes œuvres. Amen. Accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Nous restons debout pour confesser notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui, éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples, si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit, qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente notre foi. Amen. gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre d'éternité en éternité. Et nous lirons ce matin un extrait de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, les versets 14 à 20. L'amour du Christ nous étreint à cette pensée qu'un seul est mort pour tous et que donc tous sont morts. Et il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Aussi, désormais, ne connaissons-nous plus personne à la manière humaine. Si nous avons connu le Christ à la manière humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Aussi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, voilà qu'une réalité nouvelle est là. Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de réconciliation. Car de toute façon, c'était Dieu qui, en Christ, réconciliait le monde avec lui-même, ne mettant pas leur faute au compte des hommes et mettant en nous la parole de réconciliation. C'est au nom du Christ que nous sommes en ambassade. Et par nous, c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Merci Éternel pour ta parole qui nous rejoint toujours exactement là où nous en sommes. Amen. Nous allons prendre maintenant le recueil Louange et prière. Et dans ce recueil, nous chanterons le cantique numéro 155, les strophes 1, 2, 3 et 4. Et pour ce faire, je vous invite à vous lever. Prenez place. Prions. Mon Dieu, ouvre mon esprit à l'intelligence de ta parole et que mon cœur demeure brûlant tandis que tu me parles. Comme la pluie féconde la terre et fait germer la semence, que ta parole, mon Dieu, accomplisse au cœur de ma vie sa mission, ta volonté. Qu'elle féconde ma vie et lui permette de porter des fruits. Que ta parole soit la vérité de mon existence, la lampe de mes pas. Amen. Amis, frères et sœurs, le choix du passage biblique de ce matin a été motivé par plusieurs choses. Alors la première, parce que la réconciliation est le thème choisi cette année pour les rencontres du groupe biblique œcuménique. La deuxième, parce que le groupe Parole d'amour, qui se réunit tout à l'heure après le culte, se rencontrera sur le thème « Frères et sœurs ». Vaste programme dans la Bible, vaste programme, et j'ai envie d'ajouter que les disputes étant vraiment fréquentes, les chemins de réconciliation, s'il en existe, sont très variés. La troisième, c'est parce que nous vivons dans un monde conflictuel, et je ne pense pas seulement à la guerre en Ukraine, avec toutes les conséquences dramatiques infligées aux populations des régions bombardées, mais aussi de toutes les incertitudes qui en découlent sur le plan international. Mais je pense aussi à toutes les zones de conflit à travers le monde, dont on ne parle pas trop souvent en ce moment, mais qui restent pourtant bien réelles. Et puis je pense encore et peut-être surtout à toutes les relations empoisonnées par ce virus de l'humiliation, bien plus tenace qu'on ne l'imagine, selon les propos du professeur Olivier Abel, ici même, dans ce temple, il y a quelques semaines. La réconciliation. Quel beau mot de notre langue, et pourtant, qu'il est difficile à vivre. Bon, il y a de quoi. La question est vaste, je n'y répondrai pas en une prédication. La réconciliation. Don de Dieu, source de vie nouvelle. Qui se souvient que c'était le titre du deuxième rassemblement œcuménique de Graz, en Autriche, en 1997, choisi par toutes les églises européennes. Ce rassemblement a eu lieu après les guerres d'Irlande et de Yougoslavie, guerre civile en lien avec la religion. N'est-ce pas un peu théorique ? Et en disant que c'est un don de Dieu, est-ce que cela ne mène pas les croyants et aussi les non-croyants dans une impasse qui ferait rimer la réconciliation avec l'oubli, comme une éponge passée sur les crimes et sur les injustices, ce qui donnerait une réconciliation à bon marché ? Alors, posons-nous la question, comment comprendre ces mots de réconciliation ou réconcilier ? En français, le mot réconcilier signifie rétablir l'amitié entre des personnes brouillées, ou encore la paix entre des ennemis, ou remettre en accord ou en harmonie des personnes fâchées, rapprocher, réunir. Dans le vocabulaire courant, on dit raccommoder, rabibocher. Mais qu'est-ce que cela veut dire quand il est question de crise meurtrière et profonde ? Alors, en grec, le verbe réconcilier employé par l'apôtre Paul dans le texte de ce matin, katalasso, est construit sur une racine allos qui se traduit par l'autre. Et à partir d'un verbe allasso qui veut dire rendre autre, échanger. Et c'est juste le préfixe qui nuance le verbe. Il peut donc se traduire par « changer de regard et changer à l'égard de l'autre » et propose ainsi une dynamique de vie. Alors quand Paul parle de réconciliation, il se réfère à ce qu'il connaît et à ce qui était connu de ses contemporains, à savoir la signification de la réconciliation dans le Premier Testament. Le sens de la réconciliation dans le Premier Testament est un vaste domaine, à savoir celui du rétablissement des relations entre Dieu et son peuple. La réconciliation étant une communauté de vie que l'être humain a interrompue par sa résistance à la volonté divine. Et il y est induit une notion de sacrifice. Le thème de la réconciliation intervient en conclusion du chapitre 5 de sa deuxième lettre aux Corinthiens. Et c'est l'aboutissement de toute une réflexion qui commence par le partage des souffrances, la promesse des consolations, le pardon que l'on doit donner de manière inconditionnelle parce que le Christ est ce oui magistral de Dieu à toute l'humanité. Et c'est bien cette bonne nouvelle qui doit être annoncée. Et ceux qui sont chargés de le faire, comme l'apôtre Paul, doivent parler avec franchise. Et l'apôtre Paul dit que personne n'est à la hauteur d'une telle mission, sinon celui qui parle avec sincérité de la part de Dieu dans le Christ. Et Paul peut le faire parce qu'il en a fait l'expérience. Et Paul insiste sur le fait que chaque chrétien doit faire sa propre expérience de sa rencontre avec le Christ, mort et ressuscité, pour passer lui-même de la mort à la vie. Comme Paul en a fait l'expérience sur cette route de Damas. Mais reconnaître que le Christ est mort avant d'être ressuscité nécessite d'admettre la faiblesse du Fils de Dieu, d'abord Fils de l'homme, de reconnaître sa vulnérabilité dans son corps écartelé. Cet écartèlement qui, selon la théologie de Paul, permet la réconciliation, la réunification de l'homme avec Dieu, de Dieu avec l'homme, ce qui sera le fondement de la nouvelle alliance. Ce n'est pas un message facile à dire, et cela peut heurter bien des personnes. Il peut aussi se discuter. Mais pour être accueilli, ce message est à la fois à recevoir dans la raison et par la foi. Parce que la grâce du Christ se propose au cœur de chacun. Elle peut se vivre au sein de la communauté appelée et rassemblée qui devient l'Église, comme c'est le cas à Corinthe. Et en lisant tout ce chapitre, Paul opère un déplacement et pas des moindres. Il fait un glissement entre l'image concrète et l'image symbolique. Il écrit une lettre écrite avec de l'encre. Cette image concrète devient l'assemblée animée de l'Esprit de Dieu. La lettre est écrite non plus sur des tables de pierre faisant allusion au don de la loi, au don de la Torah, mais sur des tables de chair faisant allusion au cœur de l'homme, siège du nouveau temple. Ce nouveau saint des saints, la partie la plus reculée du temple dans laquelle brille la lumière de Dieu. Et le cœur a un sens ici métaphorique en ce qu'il signifie le lieu où s'opèrent les choix. Il constitue la source des pensées intellectuelles, mais c'est aussi l'endroit où l'Esprit Saint est particulièrement sensible. Paul qualifie alors le message à annoncer de trésor dans des vases d'argile. Et le Christ que nous annonçons, que nous proclamons, c'est lui le trésor. C'est un trésor que nous transportons nous-mêmes aux autres dans un vase qui est nous-mêmes aussi fort et aussi fragile que nous pouvons l'être nous-mêmes. De notre force ou de notre faiblesse dépend la force ou la faiblesse du message que nous délivrerons. Paul insiste en disant que le message qu'on annonce non seulement édifie celui qui le reçoit, mais renouvelle de l'intérieur celui qui le donne. Et tout au long de sa deuxième lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul démontre patiemment que pour entrer dans une démarche de réconciliation, il est nécessaire d'être converti à Jésus le Christ. La réconciliation est une œuvre de l'Esprit Saint, un don de l'Esprit, ce même Esprit qui nous prépare à comprendre la venue et le ministère du Christ, sa mort et sa résurrection. Dans le même ordre, on peut envisager la réconciliation comme une démarche de mort et de résurrection. Se réconcilier, c'est mourir à ce qui est ancien. C'est mourir au conflit précédent pour pouvoir renaître à quelque chose de nouveau. Ici, une relation entièrement nouvelle. Et pour une vraie réconciliation, il faut arriver à oublier qu'il y a eu conflit. Et pour oublier qu'il y a eu conflit, il faut avoir le temps et l'espace pour exprimer qu'il y a eu une souffrance et une blessure. Et c'est peut-être cela que je comprends, moi, quand Paul dit « être mis à nu, être à découvert », qui sont les termes familiers de l'apôtre pour signifier le jugement. Au fond, Paul ne parle pas de comparaître devant Dieu quand il emploie ces mots « d'être mis à nu, mis à découvert », mais cela symbolise une fragilité, une vulnérabilité, la nôtre. Et alors, ce qui est important, c'est de revêtir le Christ, dit-il, et de considérer toute personne humaine à travers le filtre du Christ, le révélateur du Christ. Le jugement ne se limite pas à l'accomplissement de certains actes, réputés bons ou non, mais à la qualité de ces actes, qui bien souvent fait défaut. La conduite terrestre est présente. Du croyant ne se limite pas à l'accomplissement de quelques actes réputés bons. Elle concerne toute la personne. Elle résulte de la communion avec Christ rassemblée dans ses mots. L'amour du Christ nous étreint. Qui peut se comprendre dans une double conviction? Il s'agit de l'amour que le Christ nous porte et l'amour que l'apôtre et nous-mêmes nous portons au Christ. Étreindre, synéko en grec, est souvent traduit et compris comme une contrainte, quelque chose qui nous domine alors qu'il peut se comprendre par tenir ensemble, maintenir dans l'unité, être associé, se donner. Et le don que fait Jésus de sa vie est signe de réconciliation entre Dieu et l'homme. Telle est la conviction de Paul. Et de cette façon, cela donne un sens positif, il donne un sens positif à cet amour-là, à cet agapé, à cet amour. C'est cet amour qui identifie les croyants au Christ, comme nous l'avons dit dans notre confession de foi tout à l'heure, dite de l'oratoire. Et avec Paul, ce qui est vrai du Christ devient vrai pour tous les croyants. Les signes que nous donnons de cela, il y en a, celui du baptême et même celui du partage eucharistique, quels que soient nos choix d'interprétation. Par exemple, en recevant le baptême, nous disons que nous mourons au péché, que nous revêtons une vie nouvelle. C'est bien un nouveau départ qui se situe dans l'appartenance au Seigneur, même si cela peut prendre toute une vie. En guise de conclusion, permettez-moi d'emprunter quelques mots des notes bibliques sur le thème de la réconciliation, rédigées par Elisabeth Parmentier, pasteur, professeur de théologie pratique depuis 2015 à la faculté de théologie de Genève et première doyenne de cette faculté depuis 2021. Elle est réputée pour son engagement dans le féminisme et dans l'œcuménisme. Je cite. Une plus grande surprise de Dieu est encore dans le renversement qui suit. L'apôtre Paul écrit : Nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Il ne dit pas : Allez évangéliser, allez convertir les autres, allez apporter la réconciliation aux gens. Non. Au contraire, il dit « Laissez-vous réconcilier ». La réconciliation, c'est d'abord en nous-mêmes, dans notre cœur. C'est d'abord notre guérison intérieure contre la colère, contre l'esprit de vengeance, contre l'égocentrisme, contre l'angoisse. Et c'est d'abord le combat que Dieu mène, non pas contre les autres, mais pour notre propre transformation intérieure. Et sa volonté, c'est faire de nous une personne autre, une personne renouvelée de l'intérieur. Avec ces mots, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature, c'est la personne qui ne vit pas recroquevillée sur elle-même, mais abritée en Dieu et tournée vers les autres comme vers ses frères et ses sœurs, au cœur des divisions encore bien réelles. La nouvelle création voulue par Dieu en chacun, chacune de nous, dans tous les lieux de réconciliation, est encore un fruit fragile et sans grande défense. Mais il nous faut continuer à notre tour à supplier le Seigneur qu'il nous accorde son esprit pour que la nouvelle création grandisse. La réconciliation doit encore grandir, elle doit s'étendre et être contagieuse. Fin de citation. Pour en revenir à notre monde actuel, mais aussi pour en revenir au dialogue œcuménique, par exemple, qui s'est d'ailleurs élargi au dialogue interreligieux, eh bien ce mouvement n'a pas encore atteint son but. Est-ce qu'il l'atteindra ? Je ne sais pas, mais ce que je sais, et ça c'est mon expérience, pas plus tard qu'hier d'ailleurs, par la célébration œcuménique d'un mariage, ce sont les dialogues, mais aussi les expériences de diaconie, de formation, de vie commune entre nos différentes cultures, nos différentes approches religieuses qui doivent se multiplier et être réinventées si celles-ci manquent de souffle. Parce que ce sont des laboratoires où sera cultivée la vie des générations à venir. Ce fameux vivre ensemble que certains aimeraient tant voir disparaître des programmes politiques. Parce qu'il y a encore une promesse dans la supplique de l'apôtre Paul. Nous sommes responsables de la nouvelle création qui se bâtit sur la justice. Et notre parole de croyant doit résister aux idées fausses, à l'esprit de division, aux injustices, à tout ce qui déshumanise et abêtit. Nous n'avons pas grand pouvoir, mais nous avons notre faible parole et notre engagement en tant que chrétiens d'une vaste famille dans le monde entier. Nous recevons la force pour oser dans tout ce que nous faisons, la rencontre de l'autre, avec l'autre, la confiance, renouveler, la réconciliation en nous-mêmes, avec Dieu et avec autrui. Finalement, la réconciliation est en route entre nous depuis très longtemps et aussi à l'intérieur de toute communauté ecclésiale. Peut-être que nous avons l'impression que cela prend du retard, mais ne pensons pas négativement cela. La nouvelle création est en route et elle commence aujourd'hui. Elle commence avec l'engagement de chaque personne de bonne volonté et soucieuse de prendre ses responsabilités. Amen. Alors, dans le recueil Louange et prière, nous prendrons maintenant le cantique numéro 338. De ce cantique, nous chanterons les strophes 1 et 2. Je vous invite à vous lever.
Thank you.
prenez place et je cède la parole à Aurore Saglio-Thébault pour quelques annonces.
Merci Agnès. Jeudi dernier, Béatrice, pour le culte de l'Ascension, nous a rappelé la nécessité de nous élever tout seuls comme des grands. Et on avait terminé le culte en disant « à nous de jouer ». Et Agnès avait dit « et dimanche, je vais commencer le premier chapitre de « à nous de jouer ». Donc voilà, réécouter jeudi dernier aussi pour comprendre dimanche. Et je crois que tous les dimanches, c'est ce que nous essayons de faire. C'est quelque chose ici et maintenant. Pour plus d'humanité dans notre monde compliqué. Quelques annonces. J'espère que vous serez nombreux à rester partager votre déjeuner avec la maman et pasteur Agnès Adeline Schaeffer. Tu échanges des paroles d'amour tout à l'heure sur les frères et les sœurs, sur la fratrie dans la Bible, et les textes sont parfois très très compliqués. Donc Agnès a appelé ce programme cet après-midi, tout un programme. Donc à la sortie du culte, vous restez avec Agnès, vous partagez votre déjeuner avec elle et vous parlez d'amour. Si le cœur vous en dit. Si vous voulez parler d'amour, si vous ne voulez pas parler d'amour, ce n'est pas cet après-midi. Voilà. Tout à l'heure, nous allons partager la scène. Également, lundi, groupe protestant des artistes et grecs. Jeudi, pause spirituelle, et un projet qui nous tient à cœur, qui est celui de la rénovation des vitraux, que nous lançons cette semaine, puisque vous voyez, la lumière électrique est allumée. Ça fait très longtemps que nous n'avons plus qu'une lumière artificielle ici, parce que ces vitraux sont très abîmés et très très sales. Et donc avec la ville de Paris, nous proposons un gros décrassage. Et en même temps, vous voyez, il y a des trous partout, des filets. Donc c'est un gros travail que nous allons mener avec le conservateur en chef de la mairie de Paris. Nous lançons un appel aux dons via la fondation individualisée de l'oratoire. Ce n'est pas des dons à l'église, ce sont des dons à la fondation du protestantisme, et en l'occurrence à la fondation de l'oratoire. Donc je passe l'information, notamment si vous connaissez des gens qui sont soumis à ce qu'on appelle l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, parce qu'il est à payer la semaine prochaine, et il y a possibilité de déduire, au lieu de payer ses impôts, de payer la rénovation et la restauration de ses vitraux. Donc je vous en prie, si vous connaissez des gens, en général, ils ne le crient pas sur les toits, mais s'ils ont un très bel appartement à Paris, par exemple, il y a de fortes chances qu'ils payent l'IFI. Je vous en prie, parlez de cette restauration des vitraux, c'est plus que symbolique de remettre beaucoup de lumière naturelle et enfin de ne pas s'amuser à essayer de penser que c'est nous qui allumons ou éteignons la lumière. Voilà, un grand merci. Comme c'est toujours un grand écart aussi, nous venons de parler d'impôt sur la fortune immobilière, nous parlons maintenant d'entraide. Nous rappelons ce que nous avons dit la semaine dernière, jeudi dernier, nous avons un besoin important de produits d'hygiène. Donc quand vous venez ici, s'il vous plaît, prenez quelques produits d'hygiène, mettez-les dans la chapelle en entrant, des paroissiens se chargent de les distribuer aux personnes en nécessité. Également, aujourd'hui, nous avons une collecte pour l'entraide. Mon collègue et consort est malheureusement toujours hospitalisé, et manque de peau, sa trésorière vient aussi de se faire très mal aux pieds, donc nous avons un représentant du conseil de l'entraide qui est Quentin aujourd'hui, qui est la jeunesse, mais vraiment pensez à eux. Vous ne les voyez pas beaucoup en ce moment, mais c'est important aussi de penser aux gens qui mènent l'association de l'entraide de l'Oratoire du Louvre. Merci à vous. Merci Sarah. Et nous gardons le meilleur pour la fin. Pour la fin, FIN et FAIM, puisque quelques scouts de la patrouille des loups va vendre des gâteaux à la sortie. Tu veux nous expliquer pourquoi ?
Alors, bonjour. Moi, je m'appelle Tom. Je suis scout à l'Oratoire du Louvre. Et à la sortie du temple, nous vendons des gâteaux. Alors, tout d'abord, c'est pour financer de nouveaux objets pour le camp, tels que des scies ou encore des haches. Mais le plus important pour nous, c'est de racheter une tente, parce que voilà, la nôtre, elle est cassée maintenant. Du coup, il faut en financer une autre. Du coup, voilà, si vous voulez nous acheter des gâteaux, ce serait très gentil de votre part. Merci beaucoup.
Merci à toi. Bon dimanche. Alors nous unissons dans la liturgie de la Sainte Cène. Éternel, nous qui sommes réunis ce matin pour ce temps de culte, nous cherchons ta présence dans notre vie, nous nous mettons à l'écoute de ta parole dans la Bible, nous essayons de discerner les actes, les paroles, les engagements auxquels tu nous appelles. Parfois, tout cela nous paraît obscur, nous sentons monter en nous l'incompréhension, le doute, peut-être même la peur. Mais tu places sur notre route des sœurs et des frères pour nous parler, pour nous aimer, pour nous encourager, pour être à nos côtés devant toi et pour partager avec nous le pain et le vin de la Cène. Béni sois-tu pour ta révélation en Jésus le Christ. Donne-nous d'être miracles les uns pour les autres, annonciateurs de ton royaume et signe de ton amour. Amen. Et nous prenons le répon qui s'intitule « Pare-toi pour une fête » que vous trouverez dans la liturgie, dans les répons liturgiques au début du psautier français. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Ceci est mon sang. » Le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Prions ensemble, les uns pour les autres.
Dieu de la vie, nous te prions pour que tombent les résistances qui nous empêchent de te rencontrer. Pour que nous inventions de nouvelles manières de nous retrouver les uns avec les autres. Donne-nous la force de l'amour qui fait du plus éloigné l'être le plus proche. Que soit enlevé de nos cœurs le levain de la haine et que la grâce du pardon descende encore et encore jusqu'à nous. Que le levain de la réconciliation lève la pâte de toutes nos relations humaines, personnelles, conjugales, familiales, professionnelles, ecclésiales, œcuméniques, interreligieuse. Que le cœur de chaque être humain soit éveillé à l'écoute de cette parole de réconciliation. Remets en nos mémoires ce ministère de réconciliation auquel nous sommes appelés. Puissions-nous y reconnaître, chacun à notre manière, selon nos expériences, ta présence. Et d'y découvrir inlassablement ta fidélité solide. Renouvelle en nous le courage d'ouvrir nos mains, qu'elles nourrissent les affamés, qu'elles puissent vêtir celles et ceux qui sont nus, qu'elles guérissent celles et ceux qui sont blessés, qu'elles soutiennent les faibles. Et par-dessus tout, ouvre nos yeux qu'ils voient la lumière et nos oreilles qu'elles reconnaissent ta voix. Que soit vaincue notre lassitude et que ta paix soit établie dans nos cœurs, en nous et entre nous. Nous rassemblons toutes nos prières dans celles que Jésus nous a laissées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Jésus, ta voix nous convie. Dieu de la vie, nous sommes libres ce matin de nous approcher de cette table que tu as préparée pour nous. Nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection. Nous faisons mémoire de celles et ceux qui sont empêchés en ce jour de partager le pain et le vin de la scène. Mais fais toute chose nouvelle dans nos cœurs pour que nous portions à notre tour cette nouveauté dans le monde. Amen. Pour partager la scène, nous demandons que chacun, chacune reste à sa place. Nous passerons le plat avec le pain et les verres avec le vin. Voici, je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Le pain que nous partageons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenez et mangez, prenez et buvez. L'homme d'espérance est un veilleur. Il est campé dans les nuits, mais l'unique clarté a fait chanter son âme. L'homme d'espérance est un veilleur. L'homme d'espérance est un cri. Il annonce le jour lorsque rien ne le montre. Il proclame des pas quand tout paraît désert. Il crie que quelqu'un vient alors qu'on n'attend plus. L'homme d'espérance est un cri. L'homme d'espérance est un cantique. Il chante à pleine voix pour éveiller les morts. Il n'a rien d'autre à faire sur la terre des hommes que de passer sa vie à raconter la tienne. L'homme d'espérance, Seigneur, est ton cantique. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Amis, frères et sœurs, le Père vivifie en vous la grâce de votre baptême. Le Christ ressuscité accompagne toute votre vie. Et l'Esprit vous fait participer dès maintenant au monde nouveau qui passe par notre ministère de réconciliation. Alors, allez avec la force qui vous est donnée et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées, toute votre personne entière. Allez dans la paix de votre Seigneur. Amen. Avant de quitter ce temple, je voudrais vous souhaiter un très beau dimanche et vous dire aussi que ma consœur Béatrice assure le culte aujourd'hui à Boulogne-Billancourt. C'est pour ça que je suis toute seule. Voilà. Et bon dimanche à tous!